I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je crois que j'aime bien cette position, en fait, de croire que on peut encore en faire quelque chose de cette idée du vivre ensemble, que ce soit en fonction de ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, ta classe sociale, etc. J'ai toujours œuvré dans ma vie pour être cette espèce d'électron libre qui se situe au carrefour de tout ça. Et je crois que je suis super heureuse d'être au carrefour de toutes ces choses-là. Et je suis fière de montrer aux riches que les gens issus de classes moins aisées, ouvrières, de commerçants, de pauvres, de cités, sont des gens intéressants et qu'ils ont plein de choses à leur apporter. J'aime montrer à des communautés majoritaires blanches que des Asiates ont énormément de choses à échanger avec eux. J'aime montrer aux hétéros qu'on peut être bi. J'aime montrer aux homos qu'on peut être bi, qu'on peut aimer des hommes, des femmes, sortir avec des gens qui ont 10 ans de plus que nous ou 10 ans de moins que nous. En fait, on peut être tout ça, quoi. Enfin, c'est vraiment l'idée de décloisonner tout et de déconstruire toutes ces putains d'étiquettes qu'on nous a mises là. On parle beaucoup de liberté, c'est un peu la devise de tous les pays occidentaux, etc. Mais on nous a jamais appris à être libre dans ces pays-là, en vrai.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Je m'appelle Thérèse, j'ai 33 ans, je suis un petit arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est super, super coloré, comme, je sais pas... ce que je suis, là, vous voyez du fluo, des couleurs dans tous les sens, mais c'est aussi cette espèce de truc, cette rencontre entre la pluie et le beau temps, quoi. Et je me sens hyper proche de cette définition, et c'est aussi assez, c'est un truc que tu peux pas attraper, que tout le monde sait ce que c'est, tout le monde le voit, mais tu peux pas l'attraper, et je me sens proche de ça, parce que parfois je me sens incomprise, mais parfois je me sens juste volontairement insaisissable.
Et quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Ça dépend des jours. Mais globalement, je vois plein de choses. Et notamment une phrase que je me suis écrite sur le miroir. Il y a peut-être un an de ça, ou peut-être un peu plus. J'ai écrit au Posca sur mon miroir de ma salle de bain...
C'est la pire idée que j'ai eue. Je suis trop bête.
On vous présente Nessie, le chat d'Anthony. La chatte d'Anthony.
Et elle voudrait participer au podcast.
J'ai l'impression, ouais.
Et j'ai écrit cette phrase qui dit « You are perfect ». Et du coup, quand je me vois dans le miroir, je vois quelqu'un qui... Quand je me regarde dans le miroir, je vois plein de choses. En fait, ça dépend vachement des jours. J'ai écrit une phrase sur mon miroir il y a peut-être un an et demi, qui est « You are perfect ». Parce que j'ai compris qu'en fait, l'apaisement, il se trouve quelque part dans cet alignement. Quand t'es d'accord avec tout simplement la personne que tu es, que tu t'acceptes entièrement... avec tout ce que tu juges être des qualités et tout ce que tu juges être tes défauts. En avoir conscience, c'est déjà une bonne chose. Les s'accepter, c'en est une autre. Et je trouve que c'est un travail qui est très long. Enfin, moi, ça m'a pris vraiment beaucoup d'années. Et je suis loin d'avoir fini. Mais c'est un chemin qui est super chouette, quoi. Donc, ouais, je crois que quand je regarde mon miroir, ce que je vois, c'est quelqu'un qui essaie. Et qui n'y arrive pas tous les jours, mais les jours où j'y arrive, je me trouve bien. Enfin,
J'étais à une expo il n'y a pas très longtemps, un vernissage d'une copine qui est créatrice, designer. Elle s'appelle Colomb de Naes et elle exposait avec un copain aussi qui s'appelle Sacha. Il y avait un petit écriteau dans la pièce. Et ce petit écriteau, il disait « Être unique, c'est bien plus beau que d'être parfait. » Et je crois que je vais changer ma phrase, en fait, sur le miroir. Parce que effectivement, la perfection, c'est une espèce de paradigme qu'on cherche à atteindre depuis qu'on est petit, parce que c'est comme ça que la société nous a éduqués, presque. Et aujourd'hui, bah non. En fait, être parfait, peut-être qu'en fait, c'est chiant.
Tu peux nous raconter ton enfance ?
Ouais. Mon enfance. Somme toute, relativement classique, je dirais. J'ai un petit frère qui a 4 ans et demi de moins que moi, dont je suis extrêmement, extrêmement proche. J'ai cette chance. Enfin, j'estime vraiment que c'est une chance. Mes deux parents habitent à Vitry aujourd'hui. Ils sont toujours ensemble. C'est un détail, mais je trouve que dans la ville et la société dans laquelle on vit, je trouve que c'est rigolo quand même. Enfin, ça conditionne pas mal de choses. Et moi, j'ai grandi, je suis née à Ivry-sur-Seine. J'ai vécu un tout petit peu les premiers mois de ma vie à Villejuif. Ensuite, on a bougé à Saint-Ouen, puis à Bagnolet, puis à Vitry-sur-Seine. Donc voilà, je suis une vraie, vraie, vraie banlieusarde de 9-4. Et autant je l'ai fui, j'ai fui ces banlieues, enfin cette banlieue Vitry à 17 ans, parce que j'en pouvais plus de plein de choses, autant en fait je suis super fière de venir de ces zones-là, de la région parisienne, parce que ça m'a complètement construite et ça fait vraiment, vraiment de moi qui suis aujourd'hui, quoi. Je m'en rends compte a posteriori. J'ai eu une enfance, je dirais, plutôt cool. Une scolarité normale, ça s'est bien passé. En revanche, une relation très compliquée avec mon papa. Et puis, une mélancolie extrême. Je ne sais pas si c'était une crise d'ado ou pas, mais ça a été très long, très sourd et assez douloureux.
Qu'est-ce que tu entends par le fait que tes parents aient toujours été ensemble et que ça façonne, mine de rien ?
En fait, en grandissant, je me suis rendu compte que malgré moi, malgré le fait que j'ai rejeté pendant très longtemps ma culture asiatique, donc moi je suis à moitié chinoise, un quart viette et un quart laotienne, il y avait quand même ce truc que j'avais gardé de notre, de chez nous, qui était le côté holistique de la culture. Et le fait que le collectif prime sur l'individu. Je ne dis pas forcément que ce soit une bonne chose, mais en tout cas, c'est là. Et j'ai compris en grandissant que c'était une des différences principales qu'il y avait entre la culture occidentale et la culture asiatique. Et que ça faisait partie d'une de mes déchirures les plus profondes, qui faisait que j'avais parfois du mal à comprendre mes parents ou à suivre ce qu'ils voulaient pour moi. Et que j'avais du mal aussi à accepter certaines valeurs et certains comportements que je pouvais avoir, et notamment amoureux, que je pouvais avoir ici, avec des gens qui ne sont pas d'origine, en tout cas, asiatique. Ou alors, je dirais même, qui ont plus une culture plus occidentale de la relation. Parce que, tu vois, par exemple, quand je fréquente des gens qui sont d'origine au sens large, hein, africaine, ou maghrébine, ou orientale, enfin... C'est des valeurs que je retrouve plus, même si on va avoir des différences énormes sur d'autres points. Je trouve ça rigolo et je trouve que c'est beau d'apprendre, pour revenir à ta question, de se battre. Moi, parfois, quand je regarde mes parents, je sais pas pourquoi ils sont encore ensemble, hein. Je me dis, ils sont tarés, ils sont tellement différents. Ça fait 35 ans qu'ils s'engueulent sur les mêmes trucs. C'est vraiment l'enfer, quoi. Enfin... Et à la fois, je trouve ça hyper beau, parce que ils ont construit ensemble et ils se sont pas zappés au premier obstacle, à la première différence ou dispute ou peu importe. Bah ouais, en fait, ils ont traversé tout ça ensemble et je trouve que c'est un beau pari, quoi. Enfin, J'ai du mal à juger, je sais pas dire si c'est bien ou pas, mais je trouve ça assez fort. Ouais.
Est-ce que tu ressentais une forme de pression à l'idée d'être une jeune fille exemplaire ?
Oui. Ouais, clairement. Ça a été le combat de toute ma vie, en fait. Enfin, aujourd'hui, je suis encore en train de déconstruire ce truc. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des facilités. À l'école, par exemple. J'avais pas à bosser comme une acharnée pour pouvoir avoir des bonnes notes. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça aujourd'hui, mais vraiment, je me suis rendu compte que par rapport à mes camarades, aux gens que je connais, etc., moi, l'école, ça n'a jamais été un problème. J'y allais, j'avais des facilités à apprendre. Donc c'était cool, ça a roulé. J'ai pu aller en prépa, faire une bonne école sans avoir l'impression de me saigner intellectuellement, quoi. Donc ça, c'était cool. En revanche, je me suis rendu compte à quel point j'avais fait tout ça pour obtenir l'amour de mon père. Et ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Il a fallu que j'accepte que... En fait, il y a un moment où j'ai arrêté d'attendre le compliment, la validation de mon père. Et j'ai décidé de prendre le dessus sur notre relation en lui disant ce que je pensais et surtout en lui disant que je l'aimais. Parfois, il ne faut pas attendre que les gens nous donnent. Faut prendre la responsabilité de dire ce qu'on a à dire. Et quelque part, ça inverse, ou en tout cas, ça rééquilibre la relation. Il y a un an et demi, j'ai dit à mon père que je l'aimais. Et tout a changé dans ma vie. Tout. Déjà, il m'a dit qu'il m'aimait. Le lendemain. Il m'appelait un peu affolé en me disant « Mais pourquoi tu m'as dit ça hier ?» Il pensait que c'était grave, que j'allais lui annoncer que j'allais mourir parce que j'avais une maladie ou je sais pas quoi. Mais non, non. Je lui ai dit « Écoute, papa, je suis à moitié... Enfin, ma culture, elle est sino-laoviète, certes. Mais je suis née en France et je me sens aussi extrêmement française et occidentale. C'est un peu un équilibre précaire. Pas facile de jongler entre tout ça. Mais ce que je sais, c'est que de par ma culture et de par ma personnalité, j'ai besoin de communiquer avec des mots. Parce que c'est important pour moi. Pas pour rien que mon métier, ce soit d'écrire des chansons aujourd'hui, en fait. Les mots sont importants, quoi. Et je trouve qu'ils ont une puissance que, pour moi en tout cas, que certains gestes ne peuvent pas remplacer. C'est juste une forme d'expression différente, mais ça se complète pour moi, ça ne se remplace pas. Pas interchangeable. Et je lui ai dit, et donc moi, en étant française et avec ma personnalité, j'ai besoin de te le dire. Je me suis rendu compte que ça faisait 32 ans qu'on se connaissait et que je te l'avais jamais dit, que tu me l'avais jamais dit. Donc, je l'attends pas de toi, je n'exige rien, mais moi, j'ai besoin de te le dire. Et ben, ça a eu pour conséquence qu'ils me le disent en retour. Et aujourd'hui, on est amis. Et je pensais pas que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Parce que, justement, la culture asiate est assez... le respect des anciens est tellement immense que ton père ou ta mère, c'est... Enfin, la hiérarchie, elle est tacite, mais elle est bien présente, quoi. Et là, en fait, ça m'a montré à quel point nos parents pouvaient aussi évoluer avec nous. Et que l'éducation, en fait, elle se faisait dans les deux sens. Ça a été un long travail de déconstruction. Je voulais toujours être... justement, on parlait de perfection tout à l'heure. Je voulais toujours être parfaite. Et j'en étais à un point de volonté d'être parfaite. Parce que j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur de m'auto-juger, de que les gens me critiquent et qu'ils me rabaissent. Qu'il y avait même des choses que je... anodine et stupide que je n'osais pas faire. Du genre, on est en soirée avec des copains ou en week-end, on décide de jouer un jeu de société. Je ne sais pas y jouer. Je ne vais pas y jouer. C'était ça, avant. Je ne savais pas mal faire quelque chose. Tout ce que je faisais, j'avais besoin que ce soit parfait. Faire la cuisine, il fallait que ce soit excellent. Je me mettais une pression pour absolument, mais tout, 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 tout. Et en fait, c'est épuisant. À la fois, cette éducation m'a donné plein de clés et plein d'outils pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc effectivement, je vais pouvoir être, entre guillemets, je prends des guillemets parce que ce mot commence à... Enfin, je le trouve dangereux. Je peux être performante sur énormément de sujets. Mais voilà, la souffrance de ne pas être à la hauteur dans plein d'autres domaines, c'était quelque chose de très très dur. Et aujourd'hui, bah, psychothérapie aidant, âge, rencontre, j'ai fait tout plein de choses pour travailler dessus et de me dire, bah non, mais la perfection, c'est pas ça qui compte quelque part.
À 17 ans, du coup, tu rends visible cette déchirure dont tu parlais en fuyant ta banlieue natale. Qu'est-ce que tu fuis là-bas ?
C'est hyper dur de dire ça. Mais à l'époque, en tout cas, je crois que je fuyais une certaine misère intellectuelle. Je me sentais... J'avais à la fois l'impression de trahir les miens, parce que bah, je m'en allais et je laissais tous ces gens tomber. J'avais plein de potes. Hein. Mais à la fois, je sentais bien que... En tout cas, les fréquentations que je pouvais avoir, ou le milieu dans lequel j'étais, le collège dans lequel j'étais, etc., je sentais que ça plafonnait. Je ne savais pas dire quoi, parce que je ne connaissais pas autre chose. Je ne savais pas ce que c'était le reste du monde. Je connaissais que ça, mais je sentais que je me sentais enfermée, en fait. Et au lycée, j'ai eu la chance d'avoir quelques profs un peu illuminés et d'autres matières qui ont fait que je me suis ouverte un peu plus au monde. J'entends mon prof de lettres de seconde, du lycée Romain Rolland, qui m'a ouvert complètement au monde de la littérature. Je pense à ma prof de philo de terminale, idem. Oui, j'étais en S, mais les matières qui m'intéressaient, c'était les matières littéraires classiques. Et j'étais en S, mais en art plastique, en option art plastique. Donc vraiment une espèce d'alien dans l'écosystème de mon lycée. C'est des gens comme ça qui m'ont ouvert au monde, en fait, et je me suis dit, il y a encore tellement de choses à explorer, tellement, qu'il faut que je parte. Ça, c'était la première chose, ou peut-être la deuxième, la première étant la relation avec mon père. Je vous refais pas de dessin. J'avais pas le droit de sortir, j'en venais à mentir tout le temps pour pouvoir respirer un petit peu. Par chance, en tant qu'enfant modèle, j'avais 78 activités extrascolaires. Le piano, le solfège, les cours de finnois, les cours de danse, j'avais des cours de tout, sauf d'amour, j'avais des cours de tout, et du coup bah, j'en profitais pour mentir entre deux cours pour dire que, enfin, il y a un moment où les parents s'y perdent hein, avec nos emplois du temps complètement tarés, et voilà, et c'était mes seuls moments, mon seul moyen d'avoir en fait une soupape pour respirer. J'avais pas le droit d'avoir de petits copains, petites copines, alors là, laisse tomber. Enfin, c'était très très compliqué. Donc, ces deux raisons ont fait que je suis partie, quoi.
Petite poupée, bébé à peine arrive et petite poupée. J'actais pour se faire éjecter, claque verbale, morale en poulet, impact de balle. Difficile à endurer, échec jugé, adouci par des chèques, mes poupées cassées. Poupée peut pas encaisser, mûrir, apprendre. Tu faisais tout ça pour moi, m'en rire comprendre. Tu faisais tout ça pour toi, téléphone maison. Allô papa bobo, t'avais raison. C'est moi qui étais pas beau, téléphone maison. Allô papa bobo, je me raisonne mais bon. Poupée est un corbeau, téléphone maison. Allô papa bobo, j'avais raison. C'est toi qui étais pas beau, téléphone maison. Allô papa bobo, poupée folle mais bon. C'est toi qui étais trop con. De la bonne élève, des petites filles dont tous les papas rêvent, grandit en silence en se mordant les lèvres, pourrait attendre le compliment jusqu'à ce qu'elle en crève, parce qu'il n'arrivera pas, parce qu'elle ne rêvera pas. Poupée, tout ce qu'elle sait faire, c'est juste marcher haut.
Dans cette injonction à l'exemplarité, est-ce que tu t'autorisais à rêver ? Est-ce que y avait un métier qui te faisait rêver, par exemple ?
Ouais, je me suis toujours autorisée à rêver. En fait, je le savais pas à l'époque, je l'ai appris vraiment quelques années là, je ne savais pas que j'étais, que je faisais partie de ces gens qu'on appelle les zèbres. je sais pas si j'en ferai la meilleure définition, si elle sera exhaustive ou pas, mais en gros, c'est des gens qu'on classe aussi avec d'autres mots que justement les zèbres n'aiment pas du tout, qui sont personnes à haut potentiel ou suréfficients ou surdoués, ce genre de choses, qui ont donc de façon pragmatique, apparemment, s'ils sont diagnostiqués, un QI c'est supérieur à la moyenne, on va dire, et surtout un quotient émotionnel plus qu'un intellectuel encore extrêmement développé, voilà, une hypersensibilité qui est là. Ça débouche parfois sur la synesthésie. Moi, je le suis personnellement. Donc, la synesthésie, c'est quand tu as une communication entre tes différents sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Tout ça se mélange un petit peu. Et voilà. Et puis, il y a énormément de caractéristiques que je vous invite à aller lire sur les internets, dans des bouquins. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est les gens à la fois qui sont le plus dans l'autodérision du monde et à la fois les gens les plus vexables du monde, qui rigolent rarement au bon moment, et qui ont aussi un monde imaginaire et intérieur extrêmement développé. Et en fait, je fais partie effectivement de ces gens-là, et donc je me suis toujours autorisée à rêver, j'en avais même besoin en fait, j'avais besoin de m'échapper parfois de la réalité, parce que je la trouvais extrêmement dure. Étant hypersensible, je sens vachement la gentillesse et la bonté des gens, mais je sens aussi extrêmement la méchanceté et les rapports difficiles, sociaux difficiles qu'il peut y avoir entre des êtres humains, entre des groupes, etc. Et j'avais souvent besoin de m'échapper. Et c'est marrant parce que la musique, l'art au sens très large du terme, et la mode, enfin, c'est toujours des métiers qui m'ont attirée. Enfin, depuis gamine, j'étais dans l'armoire de mes parents, de ma mère et de mon père, et j'essayais toutes leurs fringues. Je me suis fait des tonnes de vêtements. Ma mère, toutes les fringues qu'elle voulait plus, elle me les filait. Et puis, je découpais les manches ou je faisais des manches XXL. Puis je me baladais comme ça à la maison. J'ai toujours cru que tous les enfants faisaient ça, en fait. Mais apparemment, non. Je chantais, j'ai fait du piano assez jeune. Je peignais aussi pas mal. Et à l'issue du lycée, je voulais faire soit une école d'art, soit continuer dans la musique. Et évidemment, mes parents se sont moqués de moi. Et ils m'ont dit, même pas en rêve. Donc je suis allée en prépa.
Et dans tout ce monde de rêves et d'imaginaire, est-ce qu'il y a un moment où la réalité te rattrape et tu te rends compte que en France, t'es perçue comme asiatique? Est-ce qu'il y a ce jour-là où tu réalises ça?
Ouais, c'était assez bizarre ça. En fait, quand j'étais plus jeune et gamine, il n'y avait pas d'asiatiques représentés dans la pop culture. En fait, il n'y en avait tellement pas que moi, j'ai passé toute ma jeunesse à m'identifier à des blanches ou à des noirs. Et ce qui en soi n'est pas un problème, hein. Je veux dire, je pense qu'on peut s'identifier et qu'il faut qu'on puisse s'identifier à tout type de personnes. Mais du coup, le souci que ça a créé, c'est que il y a un moment où j'en oubliais vraiment que j'étais asiatique. Je passais devant le miroir et je vous jure que je passais dans le miroir et je sursautais en me disant, mais merde, en fait, moi je ressemble à ça. Et je ressemble pas du tout à ce que je projette d'être une femme jolie ou puissante ou sexy. C'était pas du tout le reflet que j'avais dans le miroir, quoi. Et je pense que c'est pour ça, en partie, que j'ai commencé pendant l'adolescence à rejeter de façon massive ma culture. Je ne voulais pas appartenir à ce groupe de gens qui étaient pas cool. Parce que pour moi, si tu passes pas à la télé, et si t'es pas sur MTV, et si t'es pas au cinéma, et si t'es pas dans la pop culture de façon globale, tu n'es pas cool, en fait. Pas assez cool, en tout cas, pour y être. Et du coup, j'ai commencé à plus trop vouloir avoir un peu honte, tu vois, de traîner avec les gens de ma famille. Je n'avais pas d'amis asiatiques, ou très peu. Je fuyais un peu ce truc, et c'est flippant, en fait. Enfin, je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais que tu peux pas comme ça te désolidariser des tiens. C'est comme si tu t'auto-mutilais. C'est violent. C'est hyper violent. D'autant plus que, effectivement, je, à la fois, tout me ramenait à mon asianité. Enfin, je marchais dans la rue, je me prends des nihao depuis la nuit des temps. Puis, vas-y, que je t'appelle Sushi, qu'on te demande un massage dans la rue. Parce que jusqu'à aujourd'hui, donc on est fin 2019, j'habite à Paris, donc dans la ville la plus cosmopolite de France et une des plus cosmopolites du monde. Et aujourd'hui encore, on me renvoie à, au fait que je suis, enfin, que je suis asiatique, quoi. On peut quand même s'interroger sur cette facilité, cette banalisation quelque part de ce qu'on appelle communément le racisme ordinaire, en fait. Aujourd'hui encore, je me rends compte que les Asiates restent sous-représentés dans la pop culture. Les choses changent petit à petit. Il y a eu quelques épisodes ces dernières années qui ont donné des signes de changement. Je pense à Crazy Rich Asians, on aime, on n'aime pas. Ça existe, ça a le mérite d'exister. On pense à Made in China, le film français de Frédéric Chaud. Pareil, on n'aime pas la qualité de l'œuvre, ça a le mérite d'exister. Les choses sont en train de changer. Et quelque part, ce que je trouve assez dingue, c'est justement de réussir peut-être à faire partie des happy few qui vont être la jonction entre ce que j'imaginais peut-être être un rêve et de le ramener à la réalité. J'ai l'impression que pour la communauté asiatique en France et en Occident, globalement, il se passe vraiment, vraiment quelque chose en ce moment. Et je me sens super, super honorée et fière de pouvoir en faire partie. J'espère un jour que, autant que moi, j'ai pu m'identifier à j'en sais rien, Lauryn Hill, Amy Winehouse ou Britney Spears ou les Spice Girls plus jeunes, y aura des petites Asiates, des petites Noires, des petites Blanches, des petites Rebeux, qui pourront se dire, qui pourront s'identifier de près ou de loin, et de façon aussi infime que ce soit, à une Asiatique un jour, ou à un Asiatique. Et je trouve que c'est cool, et que l'universalité, elle se construit comme ça, en fait. La représentativité, ouais, elle doit se faire de façon complète pour que l'universalité, elle soit vraie, quoi.
En parlant de représentation, qu'est-ce que tu te faisais aussi comme image de toi-même, d'un point de vue du genre?
La question du genre, c'est une question qui est venue à la fois très tôt et à la fois très tard. Ça dépend en fait des sujets. Mais j'ai eu la chance, et on a eu la chance avec mon frère, d'être élevés par des parents qui ne nous ont pas genrés. Et ça, je trouve que c'est dingue. Moi, je jouais aux petites voitures quand j'étais gamine. J'étais très très garçon manqué. Et ils n'ont pas essayé de me mettre tout à tout prix... des Barbies dans les pattes. D'ailleurs, ils ont essayé, de temps en temps, ma mère essayait de m'habiller en robe, mais en vrai, pour rigoler, toutes ses copines lui disaient « Ah bah, c'est ton petit PD !» Parce que je me comportais comme un garçon et j'avais une aura de garçon, je crois. Enfin, de garçon. Masculine, j'en sais rien, mais en tout cas, je ressemblais pas à ces petites filles modèles, à la caricature de la petite fille, quoi. Et voilà, donc j'ai été garçon manqué jusqu'à mes 10 ans, je crois. Je jouais au foot à l'école. Enfin, j'étais... Mais à la fois, je me sentais très fille. Enfin, je me posais pas ce genre de questions. Et mes parents ne me forçaient pas à me poser ce genre de questions. Je trouvais ça fabuleux. Enfin, avec le recul, je trouve ça fabuleux. Et mon frère, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un mec qui est hyper OK avec... c'est quelqu'un de très délicat. C'est quelqu'un de... Ouais, c'est quelqu'un de très... Je sais pas comment dire. Je vais qualifier d'équilibré, en fait. Parce que, justement, il est à la fois autant capable de se mettre en colère que de pleurer. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui fait que... Peut-être que c'est peut-être la raison pour laquelle on a souvent cru que mon frère et moi, on était jumeaux. Je pense qu'on a une énergie assez commune de masculin et de féminin très mélangé, qui fait que on est assez à l'aise avec le mélange des deux, quoi. Est-ce que c'est l'Asie qui fait ça? J'en sais rien. Parce que quand je regarde mes cousins, cousines, etc., non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que le genre est quand même beaucoup plus présent. Peut-être que c'est mes parents, je sais pas. Ou alors peut-être qu'ils ont extrait eux-mêmes cet enseignement de l'équilibre. Enfin, on parle beaucoup de yin et yang, et de yang. Peut-être que ça vient de là. Je saurais pas dire. Mes parents eux-mêmes, enfin, ils sont plus genrés dans le look, on va dire. Mais au fond, je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir. Enfin, j'avais un père autoritaire, certes, mais j'ai pas l'impression d'avoir un papa qui fait le mec au sens alpha macho du terme. J'ai pas l'impression d'avoir la maman qui fait genre qui joue la petite l'espèce de caricature de femme. C'est peut-être ce modèle-là en fait qui a fait de nous ce qu'on est avec mon frère. Au-delà du genre, il y a eu aussi la découverte de la sexualité, parce que ça c'est encore autre chose, c'est une étape qui vient plus tard. Et c'est marrant parce que j'ai eu ma première déclaration homosexuelle à 12 ans, je crois. Donc c'est une copine qui était dans mon école, dans mon collège. Et en fait, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et qu'elle me trouvait jolie, et tout ça. Et en fait, j'ai dû me poser la question à ce moment-là. Chose qui, souvent, les coming out arrivent un petit peu plus tard, surtout dans des lycées de zone de banlieue, quoi. Enfin, je voudrais pas caricaturer, mais... c'est une réalité. Et du coup, je crois que j'ai été assez à l'aise, en tout cas à l'intérieur de moi-même, avec le fait que elle, en particulier, ne me plaisait pas forcément, mais qu'une autre fille pouvait aussi potentiellement me plaire. Autant que plein de garçons me plaisaient. Ouais, et du coup, je crois que, en tout cas, par rapport au genre et à la sexualité, j'ai toujours été relativement apaisée à l'intérieur de moi-même. C'est pas quelque chose que je partage forcément à haute voix, que j'ai partagé à haute voix dans ma vie, mais j'ai aucun problème avec ça. Enfin, je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas, ça a jamais été un immense tabou, quoi. Et après, sur la question du genre, je sais pas, je trouve que c'est encore complexe dans ma tête. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas facile à démêler parce que ça mélange tellement de choses, des choses à la fois très sociales, à la fois très biologiques et à la fois très psychologiques. Honnêtement, à la fois autant je soutiens la cause justement la cause LGBT parce que c'est quelque chose dont je suis très très sensible à la question et à la fois honnêtement en vrai je suis perdue. Aujourd'hui je suis perdue. Il y a tellement d'appellations, on donne tellement de noms à tout que je sais plus en fait où on en est même. J'ai presque du mal à faire des mises à jour du combat. Et c'est la même chose aussi dans d'autres courants, hein, tu sais, les courants antiracistes, etc. Je suis pourtant dans la mouvance, mais il y a tellement d'étiquettes et de micro-étiquettes qu'à un moment, pourquoi on se bat, en fait ? Enfin, c'est la contradiction humaine. Hein. À la fois, on a besoin de tout nommer, et à la fois, on voudrait que rien ne soit nommé et être tous pareils, tous égaux. Et ouais, je suis un peu perdue dans tout ça. J'essaie de faire ce que je peux, j'essaie de comprendre comme je peux les choses. Surtout d'être tolérante envers toutes ces personnes. Envers moi-même avant tout. Mais ouais, je crois que aujourd'hui, j'ai plus de dogme par rapport à tout ça. Tout ce que j'essaie de faire, c'est que les gens, ils se sentent bien, moi de me sentir bien dans ma vie, de travailler sur ma personne pour pouvoir être quelqu'un de mieux, parce que je crois beaucoup, beaucoup au changement du monde par contamination positive. C'est-à-dire que plus tu auras travaillé sur toi, mieux tu te sentiras dans tes baskets, plus tu seras à même d'épauler les tiens. Et c'est comme ça, en fait, que les choses changent. Je dis pas qu'il faut pas avoir de grands combats avec des mots, avec une direction politique, etc. J'y crois beaucoup aussi. Mais le travail se fait dans les deux sens. Il faut à la fois un cap, un grand cap, un idéal, paradigme, tout ce que tu veux. Et à la fois, c'est ces petits remous qui sont tout petits et presque imperceptibles qui vont faire que les choses... On va se mettre dans la disposition, comment dire, presque biologique et humaine de pouvoir accepter le changement, accepter la tolérance, mieux vivre sa résilience par rapport à plein de choses.
De saison en saison, j'en ai rongé ma raison. Ranger mes rêves à foison, ranger les bonnes résolutions.
De saison en saison, j'en ai rongé ma raison. Ranger mes rêves à foison, manger les bonnes résolutions. De tension en tension, la cadence baisse, attention. Un verre de terre à l'hameçon, un verre de terre à l'hameçon. Mais toujours pas de putain de poisson à l'horizon.
En parlant d'antiracisme aussi, tu as quitté le foyer familial à 17 ans, et comment est-ce que tu as renoué avec ton identité, ta part d'identité asiatique ?
Ouais, ça s'est fait petit à petit en fait, parce que c'est marrant parce qu'au moment où je suis partie de chez mes parents, bon, j'ai eu d'abord 2 années de break où j'avais besoin de me décoller, mais bizarrement quand j'ai changé de ville et que je suis allée à Lyon pour mes études, j'ai lâché l'allemand, donc qui était une des langues que j'étudiais, pour prendre le chinois en LV2 à l'école. Quand même bizarre. Et du coup, j'étais fière à l'école, certes, d'avoir des bonnes notes en chinois, parce que c'est une langue que je parle couramment, mais quelque part de me rendre compte que dans ce milieu, j'étais à l'EM Lyon, hein, c'est une école de commerce, de management qui est à ses côtés. Je fréquentais des gens que je n'avais jamais fréquentés dans ma vie. Avec tout le respect que je leur dois, les noms à double particule, j'avais jamais entendu ça de ma vie, mais vraiment quoi. Et c'était que des gens issus de classes aisées, que des parents qui avaient fait des études. T'avais les gamins des patrons de boîtes de CAC 40, tu vois. Enfin, moi ça me paraissait lunaire comme monde. J'arrivais comme ça, je débarquais de ma banlieue. Mes parents étaient commerçants. Je sortais d'une cité, j'avais l'impression d'être un alien dans ce truc-là, quoi. Et à la fois, je me rendais compte que ces gens-là étudiaient ma langue d'origine. Et je crois que la fierté a commencé à naître un petit peu à cette période-là, parce que je me rendais bien compte que... le monde de demain, ou au moins celui du business, était tourné vers l'Asie. Enfin voilà, la Chine, l'Asie. Et donc j'en étais relativement fière, à tel point que j'ai décidé en 2006 de faire un stage à Pékin, avec une espèce de fantasme de retour aux origines, ou que sais-je. Donc énorme tarte hein, dans ma face. Même si mes parents ne sont pas du tout originaires de cette région-là, ni mes grands-parents. Mais bon, moi-même, je faisais l'amalgame entre la Chine, l'Asie en général, quoi. J'étais déjà allée en Asie hein, pour voyager, mais j'y avais jamais vraiment vécu. Et en fait, là-bas, je me suis sentie mais plus française que jamais. Mais vraiment. Déjà, les gens me parlaient en anglais dans la rue. Ça, c'était extrêmement vexant. J'ai compris à quel point la culture pouvait être imprégnée dans autre chose que ton faciès. Je ne bougeais pas comme eux, je ne m'habillais pas comme eux. Et j'avais un visage de toute façon de eux, ce qu'ils appellent une singapourienne, une hongkongaise, ou ce genre d'asiate, quoi. Et donc je l'ai très très mal vécu. Je crois que j'étais à moitié en dépression pendant 3 mois, parce que en fait j'ai réussi à me faire 0 ami chinois. J'ai fréquenté des gens, hein, je leur parlais, je discutais, etc. Mais je ne me suis pas fait de potes. Alors que je suis hyper sociable. À Paris, tu me lâches n'importe où dans un bar, 2 heures après, je parle avec le serveur, je connais toute sa vie. Je parle au banc dans la rue, aux poubelles, moi, tu vois. Enfin, genre, c'est... Et là-bas, je ne me suis pas fait de potes, quoi. Et ça m'a fait trop, trop mal. Bon, bref, je suis rentrée en France. Ça m'a vaccinée pendant quelques années. Sur ce retour aux origines, etc. Et puis, petit à petit, c'est revenu parce que parce que en fait il y a 2 ans de ça, il y a Chang Chaolin qui s'est fait assassiner à Aubervilliers. Il y a eu un réveil massif des enfants des Asiatiques de la seconde génération en France. Mouvement porté par Grace, quand même pas mal, par Grace Lee, qui a été en fait quelque part cette grande sœur porte-parole qu'on a presque toujours rêvé d'entendre, mais qu'on n'osait même pas imaginer parce qu'on se disait que c'était pas possible. On n'était pas ce type de communauté. Nous, on se taisait, et puis nos parents nous ont toujours demandé de nous taire, de rien dire, de baisser la tête, de sourire, de pas faire de bruit, pas faire de vagues. Et du coup, je sais pas, cette espèce de sursaut, moi, ça a été une espèce de renaissance chez moi et un déclic qui a fait que je me suis toute seule rapprochée de l'AJCF, qui est donc l'Association des Jeunes Chinois de France, dont le président était Daniel Tran à l'époque. Je me suis rapprochée, en fait, de tout plein d'Asiates, tous ces gens-là qui étaient pour moi invisibles, que j'avais censuré de ma vie. Et c'est génial parce que j'ai l'impression de m'être recollé un bras depuis. Je parlais de mutilation, mais là, j'ai l'impression d'être plus complète parce que le puzzle est enfin reconstitué. J'ai rencontré en fait plein d'Asiatiques, des hommes, des femmes, avec des histoires différentes, mais je me suis rendu compte qu'on avait plein de choses en commun et qu'on traversait en tout cas les mêmes questions. On n'y répond pas forcément de la même façon, et c'est ça qui est beau, mais en tout cas, je me suis sentie moins isolée dans mon questionnement existentiel, identitaire, et j'ai rencontré des gens géniaux aussi, enfin, qui m'ont permis quelque part de nourrir cette fierté qui est revenue. Tu vois, je pense justement Grace, qui était une des premières personnes que j'ai rencontrées. Je me suis dit, ok, c'est une blogueuse food, mais elle porte tout ça aussi. Et elle ouvre la voie à des choses tellement immenses. Je la considère vraiment comme une grande sœur, au sens où, un peu familiale du terme, mais aussi intellectuelle, au sens où ce que j'aime chez elle, c'est que elle n'a pas peur d'inviter d'autres personnes à participer au débat. Elle n'a pas peur que les gens ne soient pas d'accord avec elle. Moi, il y a des choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord avec elle. Et il y a des nuances aussi sur certaines choses et sur certains sujets. Et en fait, elle n'a pas peur qu'on ne soit pas d'accord. Au contraire, elle va inviter d'autres personnes pour venir enrichir le débat. Que la représentativité se fasse à travers plusieurs visages. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, je trouve ça magnifique, en fait. Enfin, je trouve qu'elle fait preuve d'une humanité et d'une sagesse à travers sa façon de faire qui est géniale. Quand elle peut pas aller sur certains plateaux, etc., elle nous envoie nous. Quand je dis nous, c'est toutes ces copines asiates qui font plein de trucs différents et qui réfléchissent aussi aux mêmes questions. Il y a Julie aussi, Amaïd, qui a fondé le magazine Koi, que je trouve extrêmement inspirante, douce. Elle a créé cette soirée des femmes Koi où elle invite justement toutes les nanas dont elle a parlé dans le magazine ou qui ont collaboré sur certains articles à venir échanger, montrer à quel point en fait on n'est pas seul dans nos combats, et je trouve ça super. Il y en a plein, il y a Mai Hua que je connais depuis plus longtemps mais à travers la musique, qui est une personnalité, à mon sens, extrêmement inspirante. Pour moi, c'est un petit Bouddha. C'est vraiment une nana qui m'apaise. Elle véhicule des valeurs qui sont tellement humaines. Ouais, pour moi, tout le monde devrait écouter un peu de Maï tous les jours, parce que ça reconnecte avec le corps, l'esprit, l'humain, en fait, tout simplement. Mais c'est chouette, en fait, de se rendre compte, justement, que quelque part, en une génération et demie, ça dépend des familles, ou en une demi-génération, ça dépend vraiment des familles, la communauté asiatique a réussi à s'intégrer, économiquement d'abord, mais qu'aujourd'hui, l'intégration devient plus complète, parce qu'elle se fait aussi de façon culturelle et sociale. Et ouais, et ça c'est top en fait. Enfin, moi ça me... Je sais pas, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Vraiment, vraiment. et me rendre compte aussi qu'à travers la chance qu'on a d'arriver quelque part à cette époque, c'est que mine de rien, on apprend beaucoup de tous les combats qui ont eu lieu avant. Je parle des Noirs qui sont arrivés en France, je parle de toute la communauté plus maghrébine aussi. On regarde comment les choses ont été faites, on regarde les difficultés qui ont été rencontrées, etc. etc. Et il y a énormément de choses qui sont similaires. Et du coup, quelque part, quand tu arrives après, ça te permet d'avoir une overview et d'essayer d'accélérer en fait cette intégration. Parce que, putain, qu'est-ce que j'en ai vu des... Enfin, qu'est-ce qu'on en a entendu et qu'est-ce qu'on en a vu des choses atroces. Et on se dit, bon, bah, ok. Donc ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir contourner les choses? Comment est-ce qu'on peut faire passer des messages de façon à ce que ce soit compris le plus vite possible et par le plus grand nombre possible? Enfin, c'est un travail intéressant.
Et par rapport à cet éveil-là au combat antiraciste, comment ton entourage, et notamment tes parents, ont vécu en fait ton éveil? Est-ce que t'as pu en discuter avec eux?
Je crois qu'aujourd'hui, ils en sont fiers aussi. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que pour eux, c'était un combat qui était vain. Bah, ça ne sert à rien. Nous, on ne connaît pas les gens, tu sais. On n'est pas vraiment d'ici. Mon père, d'ailleurs, n'a toujours pas de nationalité française. Parce qu'il ne la veut pas, parce qu'il ne se considère pas français. En revanche, ma mère, elle est française. Ils se sont toujours crus trop différents. Et peut-être qu'ils le sont. Je sais pas. C'est... Mais moi, je suis née ici. Et je trouve que ça change tout, parce que je me sens complètement appartenir. Je me sens archi française, quoi. Et quelque part, j'essaie de montrer à mes parents que je suis ça, les deux. C'est-à-dire que je suis à la fois fière de mes origines, avec tous les défauts qu'elles peuvent comporter, et notamment aujourd'hui avec la crispation économique, politique, etc. Mais j'aime la France, en fait. J'estime qu'on est dans un pays... Même si on est dans une époque difficile, on est dans un pays qui mélange, avec plus ou moins de succès, énormément de cultures. Et mine de rien, si on regarde un peu dans le monde entier, c'est pas si fréquent, quoi. C'est peut-être une utopie, c'est peut-être... je suis peut-être pas encore suffisamment blasée, trop optimiste. Mais je crois que j'aime bien cette position, en fait, de croire qu'on peut encore... en faire quelque chose de cette idée du vivre ensemble. Que ce soit en fonction de ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, ta classe sociale, etc. J'ai toujours œuvré dans ma vie pour être cette espèce d'électron libre qui se situe au carrefour de tout ça. Et je crois que je suis super heureuse d'être au carrefour de toutes ces choses-là. Et je suis fière de montrer, aux riches que les gens issus de classes... moins aisés, ouvrières, de commerçants, de pauvres, de cités, sont des gens intéressants et qu'ils ont plein de choses à leur apporter. J'aime montrer à des communautés majoritaires blanches que des Asiates ont énormément de choses à échanger avec eux. J'aime montrer aux hétéros qu'on peut être bi. J'aime montrer aux homos qu'on peut être bi, qu'on peut aimer des hommes, des femmes. Sortir avec des gens qui ont 10 ans de plus que nous ou 10 ans de moins que nous. En fait, on peut être tout ça, quoi. Enfin, et au-delà de ce combat antiraciste, c'est vraiment l'idée de décloisonner tout et de déconstruire toutes ces putains d'étiquettes qu'on nous a mises, là. On parle beaucoup de liberté. Enfin, tu vois, c'est un peu la devise de tous les pays occidentaux, etc., mais... on nous a jamais appris à être libre dans ces pays-là, en vrai. Et aujourd'hui, je me dis juste que si j'ai un seul combat dans la vie, c'est d'essayer de permettre aux gens de réfléchir à ça, quoi. Comment est-ce qu'on devient libre, quoi? Enfin, comment est-ce qu'on... Merci. Comment est-ce qu'on déconstruit les choses et comment on... C'est dur, c'est extrêmement dur. Ça demande un travail quotidien de se remettre en question. De prendre du recul par rapport à son propre jugement sur toutes les choses. Comment tu poses tes yeux sur le monde, en fait. Et on se rend compte tous les jours, en fait, qu'on a toutes ces contradictions, qu'un jour, on va se dire... on va penser un truc un jour et penser que c'est la meilleure valeur du monde, et le lendemain, faire le contraire, ou dire le contraire, ou penser le contraire. Et c'est quelque chose de difficile, mais on a le droit, en fait, d'être tout ça tant que c'est aligné avec ce qu'on est à l'intérieur. Ouais, j'invite les gens à pas avoir peur d'être libre. C'est dur. C'est un peu précaire comme position, comment dire, psychologique. Mais s'il n'y a pas ça, à quoi ça sert, quoi?
Bananas. I wanna dance with someone, even dance on my own in the Bahamas. I am a rat with a broom in a waiting room with a king cobra. I am the cook, I'm the groom. I would dance on my own, seeing all the men shop. You better buckle up. You're not ready for this. You better buckle up, buckle up. You're not ready for this.
Et est-ce que tu les invites à faire ça aussi par la musique?
Oh oui. Ouais, bah, la musique, ça a été un de mes terrains de jeu pour le faire. Ouais, je chante depuis longtemps, on va dire, mais de façon plutôt... C'est assez léger, j'ai jamais pris la musique comme une grande pression, et même aujourd'hui... Même si je fais les choses extrêmement sérieusement parce que bah justement ce syndrome de bon élève me poursuit, et j'en ai totalement conscience, la musique n'est qu'un vecteur parmi tant d'autres pour accéder à cette liberté. Si j'avais été plus douée, j'en sais rien, dans la photographie, j'aurais fait de la photo, et peut-être que j'en ferai un jour, peut-être qu'un jour je ferai du cinéma, parfois j'écris, je suis styliste à côté, en fait si je fais plein, en fait tous les trucs que je fais dans ma vie vont dans la même direction. C'est parce que mes parents m'ont donné une voix que j'essaie de... En fait, je me bats avec mes armes, c'est tout. On parlait de liberté tout à l'heure, c'est ça. Mon but, c'est de remuer les gens pour qu'ils réfléchissent à ça et qu'ils trouvent leur propre... Qu'ils se posent la question de savoir qui ils veulent être, en fait. Et j'ai pris la musique parce que pour moi, la musique comme le sport sont les deux disciplines qui peuvent toucher un maximum de personnes. C'est quelque chose de populaire, et c'est un truc qui m'importe, en fait, que ce soit populaire. Ce qui veut pas dire qu'il faut que ce soit cheap ou facile. Je trouve qu'il y a rien de plus beau que de faire presque du populaire exigeant. C'est pas parce que c'est pop que c'est vulgaire, quoi. Et au contraire, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, de rendre des propos accessibles, tout en étant chiadé, réfléchi, etc., etc. Et je trouve que c'est un challenge, même personnel, qui est super, quoi. Au-delà des idées de liberté, etc. Moi, je trouve ça génial d'essayer de rendre accessible quelque chose qui, en apparence, est un peu complexe ou trop deep. En fait, parfois, l'intellect est trop difficile à atteindre. Et les gens ont besoin d'être accompagnés par l'émotion. Et je crois que la musique permet, justement, la musique permet de poser des questions qui sont très profondes et très existentielles parce que on t'y est amené par le cœur. Et ouais, moi, c'est un chemin que j'aime bien, en tout cas, d'aller chercher les gens par le cœur pour les faire réfléchir.
Comment est-ce que t'as fait le grand saut de cette carrière dans le commerce et le marketing qui te prédestinait à être très sereine vers cette carrière plus artistique, beaucoup plus précaire, j'imagine, aussi? Ouais.
À l'époque, on m'avait dit « Ah, mais t'as trop de courage de faire ça ». J'ai fait un bac plus 5, j'étais très bien payée, je travaillais dans une grande maison de luxe, c'était cool, financièrement, mais j'étais pas très heureuse, en fait. Et comment j'ai fait le grand saut? Et ben j'ai fait le grand saut en demandant une rupture conventionnelle. Merci la France. Alors voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis fière d'être française, c'est que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Et moi, ça m'a permis de changer de vie. Il y a un moment où je me levais le matin et je ne savais plus pourquoi je me levais. J'ai commencé à avoir des symptômes hyper bizarres, des migraines. Parfois, il m'est arrivé de mettre une heure pour aller au boulot alors que j'habitais à genre 25 minutes. Parce que je descendais entre chaque station pour pleurer et je remontais dans le métro. Je me suis rendu compte que c'était un burn-out. Voilà, donc je trouvais plus du tout de sens à tout ce que je faisais et ma tête ne voulait pas l'accepter parce que j'ai été éduquée comme on en a parlé tout le long de ce podcast. Et du coup, je refusais littéralement de me dire que tout ce que j'avais construit ces dernières années et tout ce que mes parents avaient projeté sur moi, en moi, pour moi, ces dernières années, j'étais en fait, j'avais la volonté de le détruire. Et je supportais pas cette idée, donc en fait, ma tête a continué à aller travailler, etc., etc. Mais il y a un moment où mon corps, parce que le corps ne ment jamais, a complètement pété les plombs. J'ai vu 1, 2, 3, 4 médecins qui m'ont tous dit la même chose, vous êtes en burn-out. Et j'y croyais pas, c'est pour ça que j'en ai vu 4. Et au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. Et j'ai été arrêtée, j'ai commencé la sophro, les machins et tout. Tout ça m'a pas mal fait du bien. J'avais pas encore assez de recul pour vraiment partir de ma boîte parce que je savais pas tellement ce que j'allais faire, etc. Mais dans le même temps, j'ai lu ce fameux bouquin qui m'a appris que j'étais zèbre. Et tout s'est remis presque dans l'ordre, on va dire, dans ma tête. Si tant est que l'ordre existe dans ma tête. Mais en tout cas, je sais pas. J'avais refait la déco intérieure de mon cerveau, quoi. Et je me suis dit, mais oui, mais putain, mais c'est ça, en fait. Mais la hiérarchie, je ne peux pas. Si c'est pas assez créatif, je ne peux pas. Si les valeurs ne me correspondent pas, je ne peux pas. En fait, je me suis rendu compte de plein de trucs et quelque part, ce livre m'a servi presque d'excuse pour légitimer mon départ de chez Kenzo. Mais c'était un truc dont j'avais besoin juste pour moi, quoi. Enfin, c'était mon auto-validation. Je me suis dit, bon, d'accord. Comme je suis zèbre, en fait, je peux pas rester dans une entreprise. Il faut que je parte d'ici et puis il faut que je fasse un truc créatif, etc. Et je me suis servi de ça comme excuse, mais je pense que c'était la plus belle excuse du monde parce qu'en effet, aujourd'hui, ma vie est précaire, financièrement précaire. Je suis freelance, il y a des mois où ça se passe hyper bien et j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux de ma vie. Et il y a des mois où il se passe rien, où je suis juste en train d'envoyer 1 milliard de mails, encore plus que quand je bossais en bureau pour me faire booker en concert, aller serrer des mains jusqu'à ne plus en pouvoir à des événements et à des salons professionnels de la musique, etc. C'est pas facile, mais je suis 1 milliard de fois plus heureuse qu'avant, quoi. Vraiment, 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 vraiment. J'y croyais pas avant, quand on me disait l'argent fait pas le bonheur et tout. Bon, il en faut un minimum quand même, hein. Faut payer son loyer, faut avoir un appartement, faut manger. Mais je me suis rendu compte à quel point, même à Paris, on peut vivre avec pas tant que ça, en fait. C'est juste un shift de paradigme, encore une fois. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie, quoi? Est-ce que c'est d'avoir un iPhone? Est-ce que c'est d'avoir un MacBook Air? Est-ce que c'est de partir à l'autre bout du monde pour poster des photos Instagram où t'es sur une plage déserte, mais en fait, tu passes ta life à être sur ton téléphone? Est-ce que c'est ça qui t'importe? Est-ce que c'est pas juste d'être près de ta famille, voir tes petits cousins ou ton frère grandir, vieillir avec tes parents, parler aux gens qui sont juste autour de toi, en fait, tout simplement? Moi, en tout cas, j'ai répondu à ces questions-là. Évidemment, je ne dis pas que je partirai pas un jour en voyage, je sais pas quoi, mais je me dis juste que si je ne l'ai pas et si je ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Je suis pas contre les gens qui prennent l'avion, même si pour des raisons écologiques, etc. On a tous nos contradictions. Moi, par exemple, je suis styliste, j'adore les fringues, j'en consomme plus que de raison. Et à côté, je fais hyper attention à ce que je mange. J'essaie de voilà, encore une fois, on peut pas être parfait. Et sinon, on finit à élever des chèvres dans le Larzac, à plus parler à personne, à pédaler pour faire de l'électricité, et voilà. Mais je pense pas que ce soit réaliste par rapport au monde dans lequel on vit. Chacun doit se poser la question de où se trouvent ses limites, en fait. Et comment on fait pour œuvrer au mieux pour cette petite planète qui veut encore bien nous accueillir, mais on sait pas pour combien de temps.
Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Beyond the watch. There are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. He can't beat death, but he can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you.
J'ai écouté quelques-unes de tes chansons avec ton groupe La Vague. Déjà, pourquoi ce nom, La Vague ? Et est-ce que tu as l'impression que tes chansons sont une thérapie ? Parce qu'on sent souvent une certaine mélancolie, en fait, dans ta musique.
Ça s'appelle La Vague parce que ça ressemble à notre musique, en fait. Au début, je parlais d'arc-en-ciel. C'est marrant, j'aime bien les éléments comme ça, un peu concrets et abstraits. Ben, La Vague, c'est ça, c'est que les gens voient ce que c'est, arrivent très bien à se figurer une vague dans leur tête. Et à la fois, c'est un truc qui n'a pas de contour. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement et qui peut être à la fois tout petit, comme très très gros et destructeur. Et je crois que ça ressemble à notre musique, en fait. Aujourd'hui, personne n'arrive à classer notre musique dans un style particulier, parce que c'est de la pop électro avec des guitares électriques, donc des influences un peu rock, mais aussi des influences extrêmes orientales, et aussi un flow qui est aussi entre du hip-hop et du chant. Donc, mais c'est volontaire. Tu vois, je parlais de décloisonnement et de liberté tout à l'heure, et tout ce truc-là, j'essaie de le mettre dans notre musique aussi, quoi. Et John, mon binôme, est aussi dans cette mouvance d'essayer de libérer les choses. Et du coup, à nous deux, bah, on s'entrechoque un petit peu pour livrer cette musique qui ressemble à rien. C'est à la fois notre force et notre faiblesse. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de le prendre comme une force. Et de ne pas avoir peur de dire, de ne pas savoir répondre aux gens quand ils me disent « Mais tu fais quoi comme musique ?» Je sais pas, écoute, tu me diras. C'est pas grave si on a du mal à le nommer. L'important, c'est d'avoir des facilités à la ressentir. C'est ça qui m'importe. Je le disais un petit peu tout à l'heure, mais pour moi, les mots ont une puissance très très forte. Il y a des bouquins qui m'ont touchée. En les lisant, je pleurais, mais vraiment comme une madeleine, quoi. Il y a des bouquins qui m'ont excité. Enfin, je sais pas, il y a des passages de Kundera, je me souviens quand j'étais plus jeune, que j'ai lu. Mais genre, j'avais la culotte trempée, quoi. Alors que ça n'a rien de... On est loin du porno, quand même. Mais les mots ont une puissance dingue, je trouve. Et moi, personnellement, je sais que j'ai été touchée par des écrivains, mais aussi par des musiciens. Il y a des textes qui appuient là, mais tellement fort que quelque part, moi, à mon tour, je me dis que ça me soigne, quelque part, d'écrire. Et j'espère un jour qu'il y a des gens qui se reconnaîtront. Et autant que j'ai pu me sentir moins seule en écoutant la musique des autres, moi, si je peux apporter ça dans le monde, c'est mon rêve le plus fou, quoi. D'imaginer, en fait, je sais pas, moi, un mec au fin fond de j'allais dire la Corée du Nord, mais non, pas du tout. Ça n'arrivera pas là-bas. Probablement pas. Mais au bout du monde, je sais pas, j'imagine un mec en Équateur dans sa chambre qui écoute Spotify et qui tombe sur mon morceau, et j'imagine que ça lui parle et que ça lui fait du bien parce qu'il est en train de traverser un truc dans sa vie en ce moment qui fait que ça fait écho. Et putain, je me dis, ça c'est de la magie, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui me... Quand j'écris dans ma chambre, eh ben, je pense à cette personne imaginaire qui n'existe peut-être pas et qui aura l'impression de vivre ce truc avec moi alors qu'on se connaît pas, qu'on est à des kilomètres, etc. Mais d'avoir presque une symbiose psychique. Très bref, c'est complètement une thérapie, j'ai besoin de sortir les choses. Mais la thérapie, elle se fait par l'écriture, d'une part, mais surtout pour moi, pour ma part, par la scène. J'ai grandi en ayant très très peu confiance en moi. Je m'auto-flagellais beaucoup. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand on parlait du genre, mais j'ai extrêmement, extrêmement longtemps été complexée de ma poitrine parce que je n'en ai pas. Et du coup, je trouve ça drôle parce qu'à la fois, il n'y a pas longtemps, je disais à mon frère, je crois, je fais, mais en fait, c'est un reflet de ma personnalité, je crois. Parce que je suis ce truc masculin-féminin qui fait que, eh ben, j'ai une zézette, mais j'ai pas de sein. Et ouais, quelque part, je me dis que c'est très moi et que ça a construit la personne que je suis aujourd'hui. Et je dis souvent que si j'avais eu des gros nichons, j'aurais jamais été la même personne. J'en suis convaincue. Et bref, et donc la scène m'a aidée à m'accepter physiquement. Parce que, et pas uniquement, hein, mais physiquement parce que, en fait, quand t'es sur scène, bah, tu t'exposes. On prend des photos de toi quand t'es en train de chanter. T'es pas en train de poser, t'es pas genre comme ça. Non, t'es en train de chanter, donc parfois t'as la bouche déformée, parfois tu te baisses comme ça, t'as le bourrelet qui est là, etc., etc. Et en fait, tu dois t'obliger te forcer à voir toutes ces choses et à les accepter. Parce que tu vas pas t'amuser à dire à tous les photographes « Tu peux enlever cette photo, s'il te plaît, je me trouve pas bien dessus. Et celle-là aussi. » Non, t'es pas là pour ça. Tu es chanteuse, en fait. Donc tu es là pour chanter, donner de l'émotion aux gens ou amuser les gens selon le type de musique que tu as envie de faire. Mais t'es là pour procurer de l'émotion et t'es pas là pour... Enfin, je suis pas mannequin, quoi. Je suis chanteuse. Et du coup, j'ai dû accepter mon physique, etc. Et apprendre à me trouver belle avec tout ça, avec ce bourrelet, avec cette bouche ouverte, ces yeux à moitié fermés, en acceptant que c'est ça, en fait, qui donne de l'émotion aux gens. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'une personne statique qui est juste froide et jolie sur scène? C'est chiant. Enfin, moi, je trouve ça chiant, perso. Et du coup, ouais, la scène, ça m'a aidé ouais, à mieux accepter mon image. Je pense. Il y a une anecdote que j'ai racontée il n'y a pas longtemps quand j'étais... parce que j'ai posé pour une marque de lingerie, donc cette année. Gros, gros, gros sujet pour moi. Justement, parce que complexé de ma poitrine, etc. Et en fait, je leur ai raconté que un jour, pour la release partie de mon premier disque, j'avais trouvé une combi que je trouvais trop, trop belle. Mais j'osais pas la mettre parce qu'il fallait la mettre sans soutif. Et j'ai passé vraiment des jours et des nuits à me demander si j'allais mettre ce truc ou pas, si j'allais l'assumer ou pas. Et finalement, en discutant avec des copines, je le fais pas. Elles m'ont dit, mais vas-y, c'est pas grave et tout. Je l'ai fait. Et dans mes pires cauchemars, j'imaginais que les gens allaient se dire, ah, mais regardez tous, elle a pas de sein. Mais en fait, elle nous a menti. Et en fait, elle est moche. En fait, quelque part, c'est ça que j'entendais toutes mes espèces de projections, toutes ces voix monstrueuses là qui te parlent dans les oreilles. Et en fait, personne n'a rien vu. Hein. Évidemment. Et voilà, et tout ce processus, en fait... Enfin, la musique m'a soignée aussi parce qu'elle m'a permis d'avoir, grâce à la scène, ce shot d'amour très très sain qui pense des blessures. Comme j'étais pas sûre de moi, en grandissant, j'avais besoin de plaire. J'avais besoin qu'on m'aime. Et du coup, j'avais développé ce truc de séduction qui allait au-delà de la séduction normale. J'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin d'être utile. Parce que je me disais que quand tu te rends indispensable, en fait, quand tu es utile, tu te rends indispensable et donc les gens t'aiment, ont besoin de toi quelque part. C'est pas de l'amour, ça. Et la scène m'a permis d'avoir plein d'amour d'un coup, sans avoir à aller être dans un rapport un peu chelou avec les gens, de dépendance émotionnelle quelque part. Parce que quand je parle de séduction, c'est pas que de la séduction sexuelle amoureuse, c'était de la séduction amicale, c'était de la séduction professionnelle, enfin c'est de la séduction au sens très large du terme. Et en fait, ça me faisait énormément souffrir. Et la musique a pu, la scène a pu me soigner par rapport à ça et remettre en perspective justement mon rapport à l'amour. Cette année, mon plus grand travail, ça a été, j'ai vécu une séparation. Et mon plus grand travail a été d'œuvrer pour mon indépendance émotionnelle. Et putain, ce que ça m'a fait du bien, quoi. C'est un truc que j'avais mal compris ou pas compris ou mal appliqué. Mais aujourd'hui, je me sens bien avec moi-même. Les jours où ça va mal, je sais rester chez moi et vivre ma tristesse. Chialer toute seule sur mon canapé. Et me laisser traverser par ce sentiment. Que ce soit de la tristesse, de la colère, peu importe quoi en fait. Accueillir tout ça et le vivre de façon, j'allais dire sereine, je sais même pas si c'est serein, mais oui, peut-être de façon sereine quoi. Et je me rends compte que la thérapie, l'art, et la musique en général et l'art, c'est ce qui me soigne à la fois physiquement et à la fois mentalement. Et en fait, tout simplement parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, tu peux te sentir bien pleinement dans ton corps que quand tu te sens bien dans ton esprit et vice-versa. Et ça, putain, je l'avais pas compris, quoi. Avant, genre, ces 2-3 dernières années, j'avais pas compris ce truc. Et là, je continue à travailler pour. Depuis que j'ai posé pour la marque Isée et un petit peu avant, parce que j'avais entamé ce travail de décomplexage. Aujourd'hui, c'est un mauvais exemple, mais parce que mon haut, il est un peu transparent, que j'avais pas envie de choquer des gens en anniversaire ce soir, mais en gros, tu vois, aujourd'hui, je me sens libre de mettre un soutif ou pas. Et ça a l'air de rien. Pour moi, c'est énorme. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Et ça me fait du bien parce que je me sens forte comme ça. Et du coup, bah, le fait d'assumer ton physique renforce ton mental, qui va renforcer ton physique, qui va renforcer ton mental. Donc c'est plutôt chouette, quoi. Mais oui, on est un tout. Je reviens encore à l'Asie, hein, mais c'est ça, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit, l'impossibilité de séparer le corps et l'esprit, en fait.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force ?
Les gens. C'est toujours eux qui m'ont donné de la force. Je trouve que les gens ne se rendent pas compte de la puissance qu'ils peuvent dégager. Ouais. La jeunesse, beaucoup. Bah, l'espoir de tous ces combats, tu vois. Enfin, ce que vous faites, vous, par exemple. Toute cette mouvance. Le fait que des questions qui ne se posaient pas ou très peu encore il y a 10 ans prennent une place essentielle dans nos débats quotidiens. Certains artistes me donnent beaucoup de force. MIA m'a donné beaucoup de force. Moi, je crois vraiment que c'est les gens qui me donnent de la force. Il y a à puiser dans chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que je fais ce ou ces métiers-là. Pour rencontrer du monde, en fait. Et c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, les gens... Il y a plein de gens qui me disaient avant « Thérèse, en fait, ce qui est bizarre avec toi, c'est qu'au début, on ne sait pas si c'est sincère ou pas. » Au sens où je peux parler vraiment à tout le monde. Tout type de personnes, etc., etc. Et je crois que les gens... On n'a tellement pas été habitués à vivre dans un monde où les gens sont gentils qu'on se méfie de la gentillesse. Et moi, j'en ai énormément souffert. Parce que, en fait, quand je rencontre quelqu'un, bah, je rencontre une personne, quoi. Peu importe ce qu'elle fait, je me demande pas au premier abord ce qu'elle va pouvoir m'apporter pour faire avancer mon business, mon image, etc., etc. Évidemment, peut-être que j'y pense dans un second temps, et on est tous, voilà, on a nos bails à faire, on a nos entreprises à porter, notre loyer à payer, etc. Mais on peut aussi être dans une rencontre pure, humaine et vraie, et moi je continue à puiser à travers tous ces gens que je rencontre, moi, enfin vraiment, ça surprend des gens parfois, parce que bah, moi je connais tous les clochards de mon quartier par exemple. Mais je connais aussi tous les vendeurs de fringues hype du quartier, comme les petits boui-boui qui vendent des feux, comme... Mais parce que tous ces gens-là sont intéressants. Tout le monde a quelque chose à nous apporter. Il faut s'ouvrir, il faut parler aux gens, quoi. Et je trouve que tout le monde est inspirant.
Et est-ce que tu t'es déjà sentie majoritaire ?
Je crois pas. Je me suis sentie... majoritaire, mais de façon très brève et dans des contextes extrêmement précis, je dirais. Là où je me sens le plus majoritaire, enfin, quand tu parles de ça, c'est marrant, je pense à des dîners de famille, on est toute ma famille, et qu'il y a genre mes ex-petits copains. Tu vois, genre, je sais pas, je vais pas citer son nom, mais je le revois là au milieu de la famille, et ils comprenaient rien, parce que ça parlait plein de langues asiatiques différentes, et ça me faisait marrer, quoi. Mais c'est un des rares contextes où je me suis sentie majoritaire, quoi. Je me sens majoritaire quand... dans les groupes... aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes de travail, de paroles, etc., etc., avec des femmes, par exemple. Je pense à She Said So, je pense à Musicienne & Co, qui sont des groupes, moi, qui me font beaucoup de bien. Je peux me sentir majoritaire dans des événements tu vois, quand on a fait la projection des épisodes de Ça reste entre nous au musée de l'histoire de l'immigration, justement cette web-série documentaire réalisée par Grace Lee, je me suis sentie un peu majoritaire et tout, mais je crois que c'est un truc que je cherche pas. Je m'en fous d'être majoritaire, moi je veux qu'on soit ensemble. Je suis féministe, mais j'aime les hommes. J'ai pas envie de les éradiquer. Ce serait cool que personne n'ait envie de se sentir majoritaire, en fait, je crois. On est tous un mélange de minorités ou de micro-minorités ou de sous-sous-minorités, en fait. Je crois que j'ai pas forcément envie de me sentir majoritaire, mais je crois que je suis aussi fatiguée de me sentir minoritaire.
Et puis c'est pas forcément contradictoire si on est tous... Si personne ne cherche à se sentir majoritaire, on peut aussi trouver un équilibre dans l'égalité.
Ben ouais, complètement. Complètement.
Ben c'est même ça la définition de l'égalité au final, quoi.
Ouais. Non, mais complètement. C'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qu'il faudrait chercher à atteindre.
Eh bien, merci beaucoup, Thérèse.
Merci à toi pour ta disponibilité et tes paroles.
Merci à vous, c'était vraiment très très chouette.
Et merci à Nessy pour sa participation à Stambiolement.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.